Salut à toutes et à tous, au sommaire de ce premier épisode de la 8ème saison, nous aurons Dragon Lore, Devil Crash, Knight Rider, Hero, GG Shinobi 2 et un dossier sur l'Amstrad CPC. Bienvenue sur Rétrovision. Dragon Lore est un jeu d'aventure point and click à la première personne avec des milieux statiques et quelques objets animés très semblables à Myst ou Seventh Guest. Il a été développé par Cryo Interactive et édité par Mindscape en 1994 sur PC et un peu plus tard sur 3DO. Le joueur incarne Werner von Wannenrode, un jeune paysan. Celui-ci découvre qu'il est le fils orphelin du chevalier dragon Axel von Wannenrode, assassiné par un mystérieux chevalier noir. Werner vise à découvrir son passé, venger son père et bien entendu de récupérer son héritage. Le système d'inventaire et l'atmosphère générale de l'ensemble du jeu nous fait penser à un RPG, malgré le fait que la progression du personnage de toute nature est quasi inexistante. Les combats contre les ennemis dépendent en grande partie des objets trouvés et certains adversaires ne seront pas vaincus dans une confrontation, mais plutôt en résolvant des ennemis. Et si vous croyez avoir tout entendu en matière de doublage débile, le genre qui nuit considérablement à l'ambiance du soft, ouvrez bien grand vos esgourdes et laissez-moi vous faire écouter ceci.
Pas de panique, Heini, je m'en charge. De toute façon, c'est mon tour, non?
Oh ouais, Kik, peu cher, mais pourquoi tu dis des choses pareilles? Il va falloir que je le tue!
Eh bien non, ce n'est pas un montage, il s'agit bien de la version française de Dragon Lore. Autant vous dire que ceci m'a vraiment marqué à l'époque. Personnellement, je ne savais pas que les orques avaient l'accent marseillais et que les bandits de grand chemin parlaient comme des corses.
Ce petit gars est ma foi bien intelligent. Regarde le beau pont qu'il nous a construit.
Et nous lui en sommes très reconnaissants, n'est-ce pas, Herman?
Et attendez, ce n'est pas fini.
Mais je suis Fomarta de Hafstal. Mais oui, nous reverrons lors du vote.
Tu as parcouru un long chemin, Werner von Wallenrode. Tu as hérité du courage de ton père.
Heureusement que la version US, aussi connue sous version Gold, nous propose un doublage normal, sans prendre les accents régionaux du pays de l'oncle Sam.
We shall meet again when the voting begins.
De plus, cette version corrige les bugs de la VF et ajoute quelques cinématiques ainsi que de nouvelles musiques. Malgré ses défauts, Dragon Lore reste un jeu attachant, avec des graphismes bucoliques et une ambiance assez sombre. Dommage que le gameplay soit aussi basique. D'ailleurs, ce jeu a connu une suite, Dragon Lore 2, Heart of the Dragon Man, que nous verrons prochainement dans un rétrovision.
Ah, ce garçon est jeune, Albert. Il est sûrement pas fatigué.
C'est pas comme toi et moi, hein, Georges?
Après le très bon, mais assez limité Alien Crush, Naxat nous revient, accompagné de Red Company, pour nous proposer Devil Crash, la suite spirituelle de son précédent jeu de flipper. Ici, plus d'extraterrestres, le plateau nous immerge dorénavant dans une ambiance médiévale matinée d'heroic fantasy. Avec votre bille, vous devrez défaire squelettes, mages et autres créatures démoniaques qui parsèment le décor dont la structure ressemble beaucoup à celle d'Alien Crush, mais en plus complète et surtout plus grande. Là où le plateau de son prédécesseur faisait deux écrans de haut, celui-ci en fait trois. De même, les zones bonus sont trois fois plus nombreuses, passant ainsi de 2 à 6. Dans ces zones, vous pourrez affronter des monstres qui, si vous les battez, vous permettront d'engendrer un nombre de points non négligeables. Avec ses très nombreux éléments où la vie peut rebondir, le rythme de l'action reste toujours soutenu, et le jeu se paye même le luxe de phases assez marquantes comme ce visage de femme qui se transformera au fur et à mesure en une horrible créature reptilienne. Accompagné d'un thème musical totalement culte, dont une boucle dure plus de 3 minutes, chose très rare à l'époque, preuve du soin et de la qualité apportée aux compositions, le titre reste amusant et jamais lassant. Doté d'une physique tout à fait correcte pour la bille, d'une bonne maniabilité et de graphismes soignés, même si la version PC Engine est capable de faire mieux, le titre de Naxat n'a pas démérité d'être considéré comme l'un des meilleurs jeux de flipper de son époque. Si celui-ci reste un incontournable pour tout amateur de ce style de jeu, il pourra tout autant plaire aux joueurs lambda cherchant un titre sympathique à jouer pour s'occuper une petite demi-heure. Devil Crash a eu les honneurs d'une conversion sur Mega Drive, se nommant tout simplement Devil Crash MD au Japon et Dragon's Fury en Occident. Le titre reste techniquement identique, voire très légèrement inférieur à son aîné. Si, comme les membres de Rétrovision, vous avez grandi durant les années 80, vous avez sûrement passé des dimanches après-midi à regarder les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux, un chevalier et sa monture. Un héros des temps modernes, dernier recours des innocents, des sans-espoir, victime du monde cruel et impitoyable. Et comme tout gamin qui se respecte, vous vouliez, vous aussi, vous retrouver au volant de la Pontiac Firebird Trans AM et vous prendre pour David Hasselhoff à une époque où celui-ci arborait un brushing impeccable et un taux d'alcoolémie raisonnable. À défaut d'avoir le permis de conduire, et encore moins la fameuse Firebird, il était toujours possible de se rabattre sur nos micros grâce à Océan qui en profitait pour nous vendre du rêve. Du rêve, vraiment ? Disons que, à peine le jeu lancé, vous devez choisir l'une des quatre missions proposées. Éviter trois assassinats ou la destruction totale de la Silicon Valley. Vous devrez donc rouler à travers les États-Unis pour mener votre mission à bien, et ce, en un temps limité, pour arrêter le groupe terroriste qui fomente tous ses méfaits de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Le jeu se décompose en deux phases. La première vous placera au volant de la Pontiac pour relier différents points sur la carte. Pendant votre route, vous serez attaqué par des hélicoptères qui vous lanceront des missiles. Évitez les projectiles, détruisez les hélicoptères tout en restant sur la route. Difficile à gérer, me direz-vous ? Pas tant que ça. Océan a cru bon d'automatiser une partie de la séquence. La trépidante phase de destruction d'hélico sera gérée par l'ordinateur et vous, vous conduirez simplement la voiture. Vous pouvez également faire l'inverse, mais dans les deux cas, Kit ne sera pas très forte dans sa tâche. Une fois que vous aurez évité un certain nombre de missiles, vous passerez peut-être la seconde phase, qui s'apparente plus à une séquence d'infiltration où vous n'aurez qu'à suivre les instructions que vous fournira Kit. Celles-ci ne sont pas toujours explicites et vous aurez souvent du mal à savoir ce que vous devez faire, d'autant que vous n'aurez aucun moyen de vous défendre quand les gardes vous fonceront dessus. Les deux phases de jeu ne se suivront pas alternativement et vous pourrez parfois enchaîner plusieurs fois les mêmes séquences. Entre la scène de conduite très soporifique et la scène d'infiltration rarement limpide, ce Knight Rider ne gardera pas captif le joueur très longtemps. Surtout avec sa réalisation très moyenne, ses graphismes vides, son absence de musique, si ce n'est le thème de la série pendant le menu et ses bruitages d'aspirateur. Pour résumer, K2000, mieux vaut encore la regarder à la télé que d'y jouer. Nous voici sur Atari 2600 ou VCS au choix avec un jeu de dernière génération. Et oui, celui-ci date de 1984 et comme vous le savez tous, c'est aussi l'année noire pour les jeux vidéo. Il y a eu un crack totalement effroyable. Enfin bref, nous n'allons pas revenir là-dessus ou peut-être dans un dossier spécial, on verra bien. Ce jeu s'appelle Hero. Alors oui, c'est à double sens bien entendu. Hero pour le héros, mais c'est aussi l'acronyme de Helicopter Emergency Rescue Operation. Notre héros, nommé Roderick Hero, est secouriste, mais pas n'importe lequel. En effet, celui-ci possède un mini-hélicoptère dans le dos, lui permettant de voler, on ne peut pas mieux dire, au secours de ses victimes. Il pourra aussi se servir d'une sorte de laser pour tirer sur les monstres et des dynamites en nombre limité pour faire sauter les murs. Bref, vous voilà paré pour toutes sortes d'explorations, et ça tombe bien car vos ennuis ne font que commencer et vont aller crescendo. Le maniement du jeu est on ne peut plus simple. Le joystick pour vous diriger à droite ou à gauche, en haut pour vous envoler, le bas pour poser la dynamite et enfin le bouton feu pour utiliser les lasers. Niveau difficulté, on peut dire que les programmeurs ont bien géré l'augmentation au fur et à mesure des niveaux. En effet, autant la première mission est super simple, mais les choses vont vite se compliquer car vous aurez plusieurs passages à explorer. Mais la plupart du temps, celle qui a l'accès le plus simple se révélera être le chemin le plus mortel. Vous trouverez aussi des monstres sortant des murs en fusion, des grottes pleines d'eau où il faudra faire attention de ne pas plonger. Parfois même, vous devrez prendre une sorte de petite barque qui vous amènera d'un côté à l'autre de l'écran où il faudra sauter au bon moment de peur de voir son perso revenir sur ses pas. Enfin, toute une pléiade de pièges et autres ennemis mortels. De toute façon, si cela aurait été trop simple, le jeu aurait perdu en intérêt. Graphiquement, Hero s'en sort plutôt bien. N'oublions pas que nous sommes sur Atari 2600 et qu'il est très rare de voir des merveilles. Cependant, les graphismes, les couleurs et même l'animation s'en sortent honorablement. Niveau musique, bah là, on ne peut pas dire que ce soit superbe, vu qu'il n'y en a pas. Juste des bruitages assez sommaires, mais qui sont en adéquation avec les graphismes. Donc, rien à redire. Ce titre fut adapté aussi sur pas mal de formats de l'époque comme la ColecoVision, l'Intellivision, la Sega SG-1000, le MSX, si, et d'autres encore. Pour finir, on peut dire que c'est un jeu vraiment sympa, et qu'après 30 ans passés, nous retrouvons autant de plaisir à secourir les personnes perdues dans des dédales mortels. Allez, j'y retourne. Nous avons déjà parlé de GG Shinobi dans le premier épisode de la saison 7, et maintenant nous allons nous occuper de sa suite, toujours sur Game Gear, édité par Sega en 1992. Le joueur commence le jeu avec comme unique personnage Joe Musashi, le ninja rouge, enfin toujours le même héros dans la saga des Shinobi. Sa mission est de récupérer 5 cristaux d'éléments qui ont été dissimulés et éparpillés par l'ennemi. Comme pour GG Shinobi, les 4 premiers niveaux peuvent être joués dans n'importe quel ordre. Et, après avoir vaincu le boss, Joe sera rejoint par ses alliés, ce qui vous permettra de les contrôler aussi. Certains ninjas ont des capacités différentes par rapport au premier opus. Selon le niveau, le joueur doit utiliser la capacité d'un ninja spécifique afin d'atteindre l'emplacement d'un cristal. De ce fait, certains niveaux doivent être joués plus d'une fois si le joueur n'a pas encore le personnage adéquat. Vous aurez accès aux 5 niveaux et donc aux 5 cristaux une fois les 4 premiers cristaux réunis, exactement comme dans le premier. Le méchant aussi est le même, un ninja noir. GG Shinobi était déjà très beau, mais là on est devant un jeu tout bonnement superbe et on sent que les programmeurs ont voulu sortir les tripes de la petite portable et ils y sont parvenus. Les musiques sont aussi parfaitement dans le thème et les bruitages sont en osmose avec celle-ci. Nous avions fait un gros reproche dans GG Shinobi, c'est que nous ne pouvions pas sauvegarder les données, ce qui nous obligeait à terminer le jeu d'une traite, ce qui n'est vraiment pas commode, qui plus est sur console portable. Mais cette fois-ci, oh miracle, nous avons la possibilité d'enregistrer la partie avec un système astucieux de mots de passe à 5 caractères, ce qui est facile à noter. Ce jeu est dans la même veine que son prédécesseur, en mettant juste la barre encore plus haut, ce qui paraît invraisemblable. Mais je crois que l'on est devant un des jeux d'action le plus beau et le mieux foutu de la ludothèque de la Game Gear. Voilà, en tout cas, c'est dit, et si vous avez un doute, foncez, vous ne serez pas déçus.
Voici les micro-ordinateurs Amstrad. À ma droite, le 628. À ma gauche, le 464. Amstrad a tout prévu. Écran graphique, clavier, lecteur de disquette ou de cassette intégrée. Et une seule prise branchée. Les micro-ordinateurs Amstrad.
Faites-le,
écran graphique.
Clavier avec lecteur intégré. À ce prix-là, tout est compris, sauf le vendeur. Amstrad, le mordant informatique.
Depuis sa création en 1968, la société Amstrad s'est spécialisée dans l'électronique grand public. Mais au début des années 80, voyant le succès des ordinateurs personnels tels que l'Oric ou la gamme Sinclair, Alain Michael Sugar, patron de la firme, décide de se lancer dans ce secteur. Constatant que l'informatique grand public reste encore assez laborieuse à mettre en place pour un utilisateur lambda, avec de multiples branchements à effectuer, Sugar convoque donc ses ingénieurs et leur demande de concevoir un micro-ordinateur dont le mot d'ordre serait « simplicité ». C'est ainsi que fut mis en vente en 1984 le Color Personal Computer 464, alias l'Amstrad CPC. La machine est l'œuvre de Roland Perry et William Powell, reprenant les travaux des deux ingénieurs ayant quitté le navire sous la pression du cahier des charges imposé par Sugar. Le CPC est conforme aux attentes. La machine se présente en deux parties. Un moniteur monochrome ou couleur et une unité centrale intégrant le clavier et un lecteur de disquette. L'installation est hyper simple avec seulement trois câbles à brancher pour que le CPC soit prêt à l'emploi. La fabrication groupée des éléments de la machine ainsi que ses composants déjà bien rodés permettent de réduire les coûts de production et donc son prix de vente. Disponible dans les magasins de la grande distribution pour un prix de base de 2990 francs en France, c'est-à-dire à peu près 456 euros, le CPC aura un énorme succès dans l'Hexagone, au Royaume-Uni, en Espagne, mais également en Allemagne, où celui-ci est vendu sous la marque Schneider.
Quand on est accro, on en veut.
Ouais.
Avec l'Amstrad 6128, le micro-ordinateur complètement très bien, vous avez la totale.
Hello.
Apprendre l'anglais sans se prendre la tête.
Okay.
Se tirer la bourre avec les potes. Exploser la chetrouille du premier qui bouge. On peut tirer dans tous les coins l'Amstrad 464, avec son pistolet, sa manette et six jeux. Amstrad, une gamme d'ordinateurs complètement très bien, à partir de 1990 francs.
Pour les accrocros.
Au fil des ans, le CPC connaîtra plusieurs évolutions. Le CPC 664 est un modèle dont le lecteur de cassette fut remplacé par un lecteur de disquette 3 pouces pour des chargements plus rapides. Le CPC 6128, quant à lui, dispose de 128 kilo-octets de RAM, là où ses prédécesseurs n'en proposaient que 64. Ordinateur familial par excellence de par sa simplicité d'utilisation et son moniteur qui évitait de monopoliser la télévision, le CPC fut également très prisé comme machine de jeu. Malgré ses faibles performances, celui-ci profitera de nombreuses conversions de jeux d'arcade tels Arkanoid, Commando, Contra sous le nom de Grisor, Final Fight, Xevious et même Afterburner et Space Harrier. Sa ludothèque comportera également bon nombre de jeux issus du studio Amsoft, société créée par William Powell, et parmi ses titres, certains mettant en scène un personnage nommé Roland. Est-ce un clin d'œil ou un hommage à Roland Perry? Probablement. Vers la fin des années 80, les ventes du CPC chutent, principalement dues à l'arrivée des micro-ordinateurs 16 bits, les fameux Atari ST et Amiga. Pour contrer cela, Amstrad va rajeunir ses CPC avec les plus. Mais le 464 Plus et le 6128 Plus ne sont que des CPC à peine améliorés dans une robe plus moderne. Les coûts de production toujours plus réduits permettent pourtant d'avoir un prix de vente intéressant, mais l'architecture 8 bits vieillotte des CPC n'intéresse plus grand monde. Dans le même temps, Amstrad tente une percée dans le monde des consoles avec la GX4000 pour contrer l'hégémonie de Nintendo et Sega. Mais la console, partageant une architecture 8 bits quasi similaire avec les CPC+, l'échec n'en fut que plus grand sur un terrain où l'architecture 16 bits commençait là aussi à sérieusement s'imposer.
Ah, et mon gars, regarde ça, le nouvel Amstrad, je te dis pas, 6128 plus, c'est un vrai micro, tes courses, tes maths, ton traitement texte, tu les programmes sur ta disquette, et si l'anglais te prend la tête, mets une cartouche et fais la fête. Bricole un Mac sur des tas de jeux, super graphisme, 4000 couleurs, son stéréo dans le moniteur pour un prix hyper sympa.
Nouveau 6128 plus Amstrad sur cartouche et disquette.